Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Édouard Rosset.
Quelle réforme constitutionnelle pour la France de demain ? Beaucoup de responsables politiques, au premier rang desquels Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin, invoquent le mot dans leurs nombreuses interventions « décentralisation ». Adopté le 11 décembre 2002 par le Parlement, le projet de loi constitutionnelle relatif à l'organisation décentralisée de la République a été soumis le 17 mars 2003 au Parlement, réuni en congrès, qui l'a finalement ratifié par 584 voix contre 278. Organisation décentralisée de la République, recours à des démarches expérimentales et création possible de collectivités territoriales à statut particulier, démocratie locale directe, garantie d'une autonomie financière des collectivités locales. Voici quelques-uns des principaux axes du texte voté par le Parlement, les transferts de compétences étant fixés au 1er janvier 2005. Alors, la décentralisation, pourquoi, comment ? C'est le thème que je vous propose d'aborder dans Éclairage aujourd'hui avec nos deux invités, M. Roland Drago, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, précisément de la section législation. Monsieur Drago est également professeur émérite à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Et puis Monsieur Jacques Blanc, spécialiste des questions fiscales, ancien professeur titulaire du cours Finances locales à Sciences Po Paris et à l'École nationale des ponts et chaussées. Messieurs, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Canal Académie pour nous éclairer sur ce sujet tout à fait d'actualité. Alors Monsieur Drago, je me tourne tout d'abord vers vous, peut-être une définition dans un premier temps pour planter le décor de cette émission. Qu'est-ce que la décentralisation ? Décentralisation des pouvoirs politiques, des pouvoirs économiques, de la démocratie tout simplement ?
Oui, je crois qu'il faut indiquer que le mot décentralisation est un terme qui est relativement récent, je veux dire qu'il ne date que de la fin du 19e siècle et qu'il a été utilisé d'abord par peut-être les spécialistes, puis ensuite dans le monde politique, car jusque-là, on employait un autre mot qui a pris depuis un autre sens, qui est le mot de déconcentration. Ce que nous appelons aujourd'hui la déconcentration consiste simplement à augmenter les compétences des représentants de l'État dans les circonscriptions locales par délégation du pouvoir central, tandis que la décentralisation telle que nous l'appelons maintenant correspond à la définition suivante. Il s'agit, à l'intérieur des collectivités locales existantes, au besoin même en créant de nouvelles collectivités locales ou en supprimant, de leur conférer un pouvoir autonome de plus en plus étendu par rapport aux compétences détenues par l'État. Voilà comment on peut donner une définition simple, c'est-à-dire l'extension des compétences, des moyens, de l'autonomie des collectivités territoriales, j'allais dire au détriment, ça n'est pas le mot, mais en tout cas par une sorte d'abandon par l'État d'un certain nombre de ses prérogatives.
Oui, c'est ça. C'est un petit peu la question que je souhaitais vous poser également, M. Drago. Est-ce que décentralisation veut dire automatiquement départ de l'État à 100% du niveau local ? C'est-à-dire l'éducation, la santé publique ?
Oui et non. Mais en tout cas, le gouvernement actuel en a fait un élément essentiel, en s'inspirant d'ailleurs par certains côtés d'exemples étrangers, en a fait un élément essentiel de la réforme de l'État. Autrement dit, la réforme de l'État telle qu'elle est et telle qu'on en parle actuellement implique un certain nombre de réformes fondamentales en s'inspirant de ce qui se passe dans les pays européens notamment, mais aussi elle implique que la décentralisation devienne un élément de cette réforme de l'État pour que l'État peut-être soit moins lourd et qu'il y ait une plus grande souplesse dans le fonctionnement des institutions publiques.
Moins lourd et moins coûteux peut-être, mais ça nous y reviendra.
Moins lourd et moins coûteux, mais là ça implique un transfert de charges et pas nécessairement une disparition de coûts.
Monsieur Blanc, Jacques Blanc, vous, je pense, partagez cette définition de la décentralisation.
Approche méthodologique du professeur Drago. Ce que je voudrais dire, c'est que la décentralisation est maintenant considérée sur tous les bancs politiques comme une réforme de consensus. Elle a été commencée par un gouvernement de gauche en France dans les années 82-83. Elle est continuée,
avec
c'est l'acte 2
de
la décentralisation avec la loi de fer. Et elle est continuée, évidemment, avec le gouvernement de M. Raffarin et la révision constitutionnelle que vous avez évoquée à partir de ces deux dernières années. Il y a donc un accord Il y a donc un accord et c'est quelque chose d'assez surprenant dans la mesure où la pensée libérale était traditionnellement favorable à la décentralisation et que n'a-t-on daubé sur le jacobinisme français extrêmement centralisateur. Mmh. Je crois qu'il faudrait s'interroger aussi sur les fondements théoriques de la décentralisation. Le professeur Drago a rappelé que nous suivions l'exemple d'un certain nombre de pays étrangers. C'est vrai, on ne prononce pas quand même le mot de fédéralisme qui reste tabou, sauf M. Bérou qui l'a fait à un certain moment, mais on n'ose pas. On parle d'organisation décentralisée de la République, c'est-à-dire on fixe les modalités d'un principe dans la Constitution, on n'ose pas dire qu'on va vers un État fédéral, au contraire, on dit qu'on reste un État unitaire. Il y a quand même un phénomène de tabou qu'il faut peut-être surmonter un jour. Ceci dit, la mode est à la décentralisation. Elle vient des États-Unis et on a renoué avec nos origines presque médiévales dans ce sujet. Elle vient des États-Unis parce que la doctrine du fédéralisme budgétaire de Rhodes à partir des années 70 prévoit et préconise que chaque niveau d'administration exerce soit la fonction de stabilisation définie par Musgrave, soit la fonction de redistribution, soit la fonction d'allocation de la ressource publique. Donc c'est la recherche du niveau le plus pertinent en termes d'optimalité qui fonde la décentralisation sur le plan de la science économique. Et puis on a renoué avec un principe médiéval de droit canon, c'est le principe de subsidiarité qui enrichit considérablement la notion de décentralisation puisque le traité de Maastricht impose quasiment de respecter le principe de subsidiarité étant entendu qu'il est inutile pour un niveau supérieur d'exercer une compétence qu'un niveau inférieur est plus à même d'exercer lui-même sur le terrain. Alors, donc il y a eu un enrichissement doctrinal de la notion de décentralisation.
Un des points du débat entre partisans et opposants de la décentralisation est celui des avantages ou des inconvénients de la dite décentralisation. Alors je présume, professeur Drago, que vous allez me dire plus d'avantages que d'inconvénients.
Oui, moi je le pense très sincèrement. Ça n'est pas l'opinion de tout le monde. Quelquefois la chose est présentée de façon très caricaturale, mais il est certain qu'il y avait une tradition jacobine en France et que, en fait, les premières décentralisations ne remontent qu'à la Troisième République et que, par conséquent, on se trouve là dans une évolution qui s'est marquée depuis la Troisième République. La Troisième République a été quand même assez décentralisatrice. C'est au début de la Troisième République, c'est-à-dire vers la fin du XIXe siècle, qu'ont été votées les grandes lois décentralisatrices concernant les communes et les départements. Ensuite, il y a eu une évolution qui a été quelquefois en dents de scie, mais dans l'ensemble, sur l'espace d'un siècle, on peut dire que la décentralisation a progressé, qu'elle est devenue un élément fondamental du système français, avec deux éléments qui sont d'une part l'élection de ceux qui administrent les collectivités territoriales, l'élection au suffrage universel ou au suffrage restreint selon le cas de ceux qui administrent les collectivités territoriales et d'autre part les pouvoirs de plus en plus étendus qui sont conférés à ces organes élus aussi bien au niveau communal, départemental et régional.
Mais le but du jeu, si vous me permettez l'expression, c'est quoi ? Simplifier la vie administrative, c'est-à-dire plus de proximité, moins de bureaucratie, raccourcir les circuits de décision.
Vous avez raison, c'est ça, c'est un problème de diminution des compétences étatiques pour les ramener à l'essentiel et pour que des activités plus proches des particuliers soient assurées à un niveau local par des instances élues par ces particuliers. Il y a donc en même temps une base démocratique à la décentralisation, bien entendu.
Thank you. Alors, si les avantages de la décentralisation sont aussi évidents, pourquoi les Français ne sont-ils pas plus passionnés par le sujet? On le voit, les enquêtes d'opinion le montrent bel et bien, la décentralisation, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas à quoi ça sert. Jacques Blanc.
Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, il n'est que de voir la montée de l'abstentionnisme électoral, au moins pour les élections municipales. La commune est la collectivité la moins touchée par les transferts de compétences, mais on vote de moins en moins aux élections municipales depuis 1983. Et les taux d'abstention sont supérieurs à ce qu'ils étaient en 1977. Vous savez qu'un Français sur deux, ou même pire encore, ne connaît pas le nom de son président de région. Vous savez que même dans la rue d'Assas, quand on demande à des étudiants quelle est la répartition des compétences entre le département, la région et la commune, on se sorte parfois à un certain effet de surprise de leur part. Alors, si vous voulez, sur cette question des avantages et des inconvénients de la décentralisation, je pense personnellement que tout dépend des modalités de ce que l'on veut faire. Et sur le principe, tout le monde peut être d'accord, mais tout dépend des modalités en fonction d'une conception de l'État qui est la sienne.
C'est-à-dire
que vous avez deux souverainetés qui s'opposent. Il y a la souveraineté de l'État qui a la compétence de sa compétence, c'est la théorie normativiste, c'est celle de Kelsen. Et puis vous avez la théorie de la subsidiarité qui fait que précisément, je disais que ça venait du droit canon, parce que précisément pour ce droit canon, l'instance la plus propre à s'occuper des enfants, c'était la famille. Pour les évêques, c'était le moyen de faire travailler les curés. Mais dire qu'il est inutile pour un niveau administratif de niveau supérieur de s'occuper d'affaires que peut mieux gérer un niveau inférieur, c'est quelque chose qui bat en brèche la théorie de la souveraineté de l'État. Et donc on va certainement, en liaison avec les constructions fédérales qui se précisent dans le contexte européen avec la Convention, on va certainement vers un démembrement de la souveraineté de l'État qui est en parfaite contradiction avec notre tradition juridique.
Mais est-ce que la décentralisation peut réellement marcher à la base, je dirais, fonctionner à la base à partir du moment où les Français ne savent pas ce que c'est et ne s'y intéressent pas vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas un effort de pédagogie à faire?
Il faut dire que dans d'autres pays, il y a peut-être plus d'intérêt pour les problèmes locaux, et on peut le voir dans un instant par ce que je dirais, mais il n'empêche que les Français actuellement ont une vision qui est très caricaturale quelquefois, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. Blanc, une vision qui est caricaturale de la décentralisation, et ce qui veut dire qu'il y a chez eux une sorte de fondement jacobin qui subsiste, d'autant plus qu'il est très difficile que l'État accepte de se débarrasser, si on peut dire, d'un certain nombre de ses fonctions. Or, dans la plupart des pays européens et dans beaucoup d'autres pays en dehors de l'Europe, non seulement c'est la décentralisation qui est pratiquée, mais une décentralisation beaucoup plus importante que celle que même on veut faire encore aujourd'hui en France. Je voudrais, avant d'essayer de faire un tableau, mais nous verrons dans un instant, c'est à vous de décider, parler de ce problème de l'abstentionnisme. Il est vrai que l'abstentionnisme en France signifie, notamment à propos des élections locales, un certain rejet de la part des électeurs. Je crois cependant que l'abstentionnisme, même s'il a un sens, même s'il est important, ne peut pas être considéré comme une donnée fondamentale dans la mesure où dans d'autres pays démocratiques, si on prend le cas de l'Angleterre et si on prend le cas des États-Unis, qui sont deux questions que je connais bien, l'abstentionnisme y est très fort. Pour les élections locales au Royaume-Uni, elles comportent un abstentionnisme considérable. Pour les élections présidentielles aux États-Unis, il y a un abstentionnisme considérable, et pour les élections locales aussi. Par conséquent, l'abstentionnisme a un sens, bien entendu, mais il ne faudrait peut-être pas le dramatiser, ou alors on le dramatiserait pour notre propre pays seulement, simplement parce qu'on l'expliquerait par une sorte de rémanence du jacobinisme. Mais je pense que l'abstentionnisme a d'autres significations, il a été étudié de près, et on voit qu'il n'a pas d'effet qui soit des effets permanent, et il a des significations très variées. Maintenant, si vous voulez, on peut essayer de faire un tableau des systèmes d'administration locale, mais c'est à vous.
Je vous en prie. On va y venir, effectivement. Mais Jacques Chirac s'est refusé au référendum pour cette question de la délocalisation. Est-ce que, au fond, le référendum aurait permis d'intéresser plus de Français à ce débat?
Au sujet de l'abstentionnisme, il faut raisonner non pas en niveau, mais en variation. C'est la tendance longue qui compte. En 77, je répète, pour les municipales, on avait le taux de participation le plus fort, 83, 84, 89, 95, 2001, on a eu une érosion sans cesse du taux de participation. Précisément au moment où on voulait faire de l'administration au plus près des citoyens. Gaston Defferre parlait d'enraciner l'unité de la République dans la diversité de ses composantes. Monsieur Raffarin parle de la République des proximités. Je peux vous assurer que les citoyens ont besoin de protection sociale. Ils la trouvent au sein même de l'État, au sein même du département pour ce qui est de l'aide sociale, mais sûrement pas au niveau de la commune. Et donc, rapprocher l'administration des administrés au niveau communal n'a guère de sens, à mon sens.
Oui. Roland Drago, sur ce point.
Oui, moi je suis tout à fait de cet avis aussi. Et je crois que le président de la République a eu raison de ne pas faire de référendum, car ce référendum aurait donné des résultats qui auraient été extrêmement déplaisants, extrêmement désarmants. Car justement, les Français ne sont pas des passionnés, de la décentralisation. Je ne dis pas qu'il faut la faire malgré eux, car il y a une époque où ils la réclamaient, où pour eux c'était le critère même de la démocratie. Je pense notamment au début de la Troisième République, et par conséquent, elle leur semblait comporter des avantages importants. Il n'empêche que pour le moment, il semble que la décentralisation ne les attire pas. Peut-être qu'on arrivera à leur en montrer les avantages. Ils n'en ressentent pas les avantages, d'autant plus qu'il y a évidemment des différences entre les différentes catégories de collectivités territoriales. Le problème de la commune n'est pas semblable au problème du département. Le problème de la région a été ignoré en France, même condamné, même rejeté jusque vers les années 60. Il a commencé très timidement à partir des années 60 et c'est seulement aujourd'hui qu'il prend une importance considérable. Il faut d'ailleurs faire attention à propos de la région, car les régions pourraient avoir tendance, et c'est le cas dans certains autres pays, à établir plus de relations avec la communauté européenne, avec l'Union européenne, qu'avec leur propre pays. Et ce problème des régions européennes, des régions dans l'Europe, est un problème qui peut être dangereux.
Jacques Blanc.
Ah, vous avez tout à fait raison, et j'abonde dans votre sens. On assiste à la naissance de régions-État. L'Alsace, depuis le 1er janvier 2003, peut gérer directement ses fonds structurels avec Bruxelles. Et si vous voulez, il y a, au sein des institutions européennes, l'Europe est partie prenante dans ce domaine, tout un courant d'opinion à l'initiative de l'Allemagne qui préconise d'augmenter l'autonomie des collectivités locales. La charte de l'autonomie locale, c'est à l'initiative des Allemands qu'elle a été décidée. La future charte de l'autonomie régionale, c'est toujours à l'initiative des Allemands. On cherche
c'est le fameux fédéralisme, en fait.
C'est une sorte de fédéralisme, et surtout, c'est quelque chose qui devrait permettre à l'Allemagne de retrouver une assise géographique en brisant les frontières qui l'enserrent. L'Allemagne est le pays qui a le plus de minorités à l'extérieur de ses frontières, je pense aux Sudètes notamment, et créer des États-régions sur une base ethnique, c'est quelque chose, Pierre Hillard l'a démontré suffisamment, je crois, c'est quelque chose qui risque d'être un danger pour l'avenir de l'Europe et pour l'avenir de nos collectivités locales. Donc il y a une dimension politique de la décentralisation dont il ne faut pas
Il ne faut pas négliger.
En même tant qu'une dimension technique, le problème n'est pas exclusivement technique. Il peut y avoir manipulation de la dissimulation dans un contexte géostratégique. Je parlais du fédéralisme budgétaire tout à l'heure. Pierre Hillard, qui écrit sur les rapports de la France avec l'Allemagne, n'hésite pas à dire que, mon Dieu, les faucons américains peuvent agir ainsi de façon à balkaniser le continent, comme l'URSS, comme la Yougoslavie ont été balkanisés pour asseoir l'Empire américain. Mais on est très loin du sujet, pardonnez-moi, monsieur le professeur.
Nous marquons une pause, si vous le voulez bien, dans cette émission. Monsieur Roland Drago, donc invité de Éclairage aujourd'hui, traitant de la décentralisation. Mon professeur Drago, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Avec nous également Jacques Blanc, spécialiste des questions fiscales. Nous nous retrouvons dans un instant.
Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez. Éclairage parle de la décentralisation. Aujourd'hui, thème pour le moins d'actualité, la réforme constitutionnelle. Nos deux invités, Roland Drago, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, membre de la section législation précisément, et professeur émérite à l'Université Panthéon Assas. Et puis à ses côtés, Monsieur Jacques Blanc, spécialiste, je le disais, des questions fiscales, ancien professeur titulaire des cours de finances locales à Sciences Po Paris et à l'École nationale des ponts et chaussées. Professeur Drago, si l'on fait un petit peu d'histoire, la réforme que le gouvernement engage par son projet touche réellement aux profondeurs de la France. Elle s'inscrit finalement dans une réforme très ancienne qui remonte, on peut le dire, à la féodalité.
Ah non, alors là, je pense que si on veut faire une vision à partir du, je ne sais pas, de la féodalité, c'est-à-dire à partir du 12e, 13e siècle, alors à ce moment-là, la féodalité est une réunion d'États qui dépendent du souverain de façon très théorique, à la fois pour des raisons personnelles et quelquefois pour des raisons tenant à aux terres qu'ils occupent. Mais la féodalité est un groupement d'États qui, évidemment, implique que ces États sont indépendants les uns par rapport aux autres. Et le rôle de la monarchie française a été, à partir du 14e, du 15e siècle, justement, de constituer un État qui allait devenir un État unitaire. Donc la féodalité est à la marge. En revanche, ce qui est le point de départ, c'est le fédéralisme. Nous avons déjà parlé du fédéralisme. Le fédéralisme implique un État qui, du point de vue international, a en principe une unité et est reconnu par d'autres États, quelle que soit leur nature, mais qui est divisé en États qui ont pour caractéristique d'avoir une compétence législative. Je parle en juriste. Dans une fédération, les États membres, c'est-à-dire aussi bien aux États-Unis qu'en Allemagne, ont une compétence législative. Et dans ce cas-là, l'État fédéral n'a une compétence législative que restreinte, et toutes les autres compétences législatives appartiennent aux États membres. Il y a d'ailleurs des principes même dans le fédéralisme allemand qui rappelle cette notion. La décentralisation, elle, se situe à un niveau inférieur. C'est une autonomie administrative, mais non pas une autonomie législative.
Bon, mais alors, au fil des siècles, professeur Drago, comment cela s'est-il passé? Il y a eu des périodes que l'on peut qualifier à l'époque de décentralisation, même si le terme n'existait pas encore.
Oui, bien sûr, mais en ce qui concerne le fédéralisme, la France a été très hostile au fédéralisme. Les Girondins sont montés sur l'échafaud à cause du crime de fédéralisme. La Révolution a fait du fédéralisme que réclamaient les Girondins un crime. Mais il est bien certain que l'autonomie locale s'est faite dans un cadre qui a été recréé à l'époque révolutionnaire. Les communes ont été réorganisées, les départements ont été créés. Et dans ce cadre a vécu un système qui était un système de centralisation. C'est-à-dire que les autorités de ces départements et de ces communes étaient désignés par le pouvoir central, avec des nuances. Les préfets étaient et sont toujours nommés par le gouvernement. Les membres des assemblées locales étaient désignés d'abord sur les listes établies par le gouvernement, ensuite par un suffrage restreint. Mais c'est seulement au début de la Troisième République que les communes ont acquis une autonomie complète, avec un conseil municipal élu au suffrage universel et un maire élu par le conseil municipal, les départements des conseillers généraux élus au suffrage universel, mais avec une rémanence qui a duré jusqu'en 1982 du préfet en tant qu'autorité exécutive, ce qui était une particularité propre à la France. Et voilà donc comment s'est situé le système décentralisé français, une élection des organes délibérants, une élection du maire, mais pas de l'autorité exécutive du département, et puis une extension progressive et relativement modeste des compétences. En tout cas, je prends un seul exemple qui est peut-être ignoré des Français, mais qui a de l'importance, c'est qu'il y a dans la loi de 1884, qui a été le texte général sur les communes, un texte qui est d'ailleurs repris aujourd'hui dans les codes, C'est le maire qui, dans la commune, a le pouvoir de police municipale, c'est-à-dire du maintien de l'ordre, ce qui est quand même une chose importante pour un personnage élu.
Alors, au fil des siècles, finalement, les libertés locales n'ont-elles pas été victimes tout d'abord des guerres ? Pour ne citer qu'un exemple, la France de Richelieu qui s'engage dans la guerre de 30 ans, quadruplement des impôts, tout cela retombe sur... ça accable les campagnes, provoque les révoltes. Est-ce que les guerres n'ont pas joué un petit peu leur rôle aussi à travers...
Si vous remontez là, je ne pense pas que ça soit lié aux guerres, parce que si vous remontez donc à l'Ancien Régime, après la fin... ou en tout cas la diminution de la féodalité, la France était divisée en deux types de circonscriptions selon des motifs historiques ou géographiques. Il y avait ce qu'on appelait les pays d'État, qui avaient des États provinciaux qui n'étaient pas élus, mais qui étaient quand même des assemblées délibérantes où les trois ordres étaient représentés. Et puis, il y avait ensuite ce qu'on appelait les pays d'élection, par antiphrase, parce que le mot a pris un autre sens, qui étaient administrés directement par des intendants créés par Richelieu. Et par conséquent, vous aviez, sous la France de l'Ancien Régime, vers le 18e, le 17e et le 18e siècle, cette diversité, avec surtout à la périphérie des États qui des provinces qui s'administraient de façon relativement libre, comme le Languedoc, la Bourgogne, la Bretagne, et d'autres qui étaient dans la dépendance plus directe du pouvoir central, qui étaient surtout les pays entourant Paris, mais de très loin, avec des intendants qui avaient des pouvoirs très étendus et qui n'étaient pas assistés, ou en tout cas de façon très épisodique, par des instances délibérantes. Donc, il n'y a pas de lien, à mon avis, avec les guerres.
Jacques Blanc, quelle conclusion tirez-vous de cette évolution au fil des ans, au fil des siècles de la question
locale ? Je crois qu'on a toute une tradition de droit public, comme je disais. Et juste un bémol, si vous permettez. Mona Ozouf a très bien montré que les Girondins étaient aussi jacobins que les Jacobins. Ils sont servis de l'insurrection fédéraliste comme un levier. Et ils sont montés à l'échafaud à cause de ça, mais c'était un prétexte. Donc on est fondamentalement jacobin. Pour en revenir à l'époque...
Ils n'ont pas été des décentralisateurs, en fait.
Ils n'ont pas eu le moyen d'exercer le pouvoir, sauf sous les ministères girondins, où là, justement, leur implantation locale était beaucoup moins bien revendiquée. Mm-hmm. Mais à partir de 1793, c'était beaucoup plus difficile, évidemment, puisqu'ils n'étaient plus là. Pour en revenir à l'époque contemporaine, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu une altération des formes classiques. Il n'y a pas de différence de nature entre le fédéralisme et la décentralisation, mais une différence de degré. Que maintenant on a des États qui sont polymorphes. L'Italie a toutes les prérogatives, c'est un État unitaire, l'Italie d'un État fédéral, puisque depuis la révision de 2001, l'État a une compétence d'attribution et les régions ont un pouvoir législatif de droit commun. Et là, il y a vraiment pouvoir législatif. Alors, reconnaître du pouvoir législatif aux régions italienne, État unitaire, reconnaître du pouvoir législatif aux communautés espagnoles, les régions espagnoles, État unitaire, c'est une chose, mais le droit à l'expérimentation se situe en France nettement en recul par rapport à l'exercice d'un pouvoir législatif. Le droit à l'expérimentation, c'est un peu le substitut de l'exercice d'un pouvoir législatif, c'est expérimenter sur le terrain une législation et puis, si elle a réussi éventuellement, l'étendre à tout le territoire. C'est la méthode expérimentale en matière de droit public. Le problème, c'est que la réversibilité des évolutions n'est peut-être pas assurée. Si on donne une compétence et une région à sa demande ou si l'État choisit de lui donner une compétence dans tel ou tel domaine, elle va recruter des fonctionnaires pour exercer cette compétence. Il sera difficile, si les résultats ne sont pas probants, de revenir en arrière et de licencier ses fonctionnaires. Donc il y a un effet de cliquet qui engage de façon presque irréversible en termes techniques le pays dans une marche à la décentralisation forcée qui trouvera peut-être son aboutissement sur un jour l'octroi du pouvoir législatif aux collectivités que pratiquent les grands États autour de nous, bien sûr, et même les États unitaires. Ceci dit, et je voudrais terminer là-dessus sur ce point, un État fédéral n'est pas un État décentralisé. Prenez les États-Unis, prenez l'Allemagne fédérale, l'État, c'est le Land, c'est l'État fédéré. En Allemagne, le Land tient d'une main de fer ses différentes communes, ses Kreis. Les États fédérés font la même chose sur l'innombrable masse d'institutions qui constituent un véritable maquis, les comtés, etc. Donc un État décentralisé n'est sûrement pas un État... un État fédéral n'est sûrement pas un État décentralisé. Ça rejoint un peu ce que je disais en parlant en termes de géopolitique sur l'extension de l'Empire américain qui préconise pour les autres le fédéralisme budgétaire et qui pour lui se garde bien de souscrire à cette mode ambiante qu'est la décentralisation.
Roland Drago, j'aimerais que nous revenions quelques instants sur les réels avantages de la décentralisation aujourd'hui en termes politiques pour le citoyen. Pour le citoyen, le commun des mortels, je dirais, la décentralisation, que peut-on en tirer comme bénéfice ?
Alors, je voudrais simplement revenir sur un mot qu'a employé M. Blanc. Il a dit « un État fédéral n'est pas un État décentralisé ». Il a tout à fait raison. Mais c'est pour dire que dans une fédération, les États disposent d'un pouvoir législatif, donc ça va même au-delà de la décentralisation. Et par conséquent on est dans un système qui se dégrade de plus en plus pour aboutir, à la fin, à des États comme ceux que je ne nommerai pas, dans lesquels il n'y a pas de décentralisation du tout. Et dans ce cas-là, ces États sont menés d'une main de fer par un pouvoir qui est généralement un pouvoir autoritaire et qui, lui, ne pense pas du tout à donner une autonomie locale à quelques circonscriptions que ce soit. Elles peuvent l'avoir pour des raisons coutumières ou autres, mais enfin, on est là en présence d'un État qui n'est pas démocratique et qui, par conséquent, ne pratique pas la décentralisation. Il y a un lien entre la démocratie et la décentralisation, nous l'avons dit dès le début. Maintenant, pour en venir à votre question...
Les avantages, la proximité, qu'est-ce que ça apporte ?
Les avantages sont évidents. Les avantages sont la proximité, sont la simplification des réseaux et surtout, bien entendu, dans ce cas-là, l'absence d'ingérence du pouvoir central dans la gestion des affaires locales, ce qui suppose... dans la mentalité française, alors que les Anglais et les Américains, eux, s'habituent à cela, bien qu'il y ait une ingérence aussi, mais elle est d'une autre forme, l'ingérence du pouvoir central dans le fonctionnement des collectivités territoriales est évidemment à bannir lorsque l'on parle des avantages de la décentralisation. Or, depuis le XVIIIe siècle, on employait jusqu'à 1982 un mot qui avait beaucoup de sens, on disait la tutelle de l'autorité centrale, la tutelle exercée par l'autorité centrale sur les collectivités locales, parce que, peut-être pour de bonnes raisons à l'époque, on n'avait pas confiance en elle, on craignait qu'elle commette des abus, et par conséquent, on estimait que seule l'autorité centrale avait le pouvoir de s'opposer à un certain nombre de décision, d'où d'ailleurs jusqu'en 1970 l'approbation de la quasi-totalité, y compris des budgets, pris par les collectivités territoriales.
Donc plus de simplification, plus de simplicité.
Plus de démocratie.
Plus de démocratie par définition. Est-ce que décentralisation est synonyme d'augmentation de la fiscalité locale ? Parce que tout ça, ça demande des moyens quand même. C'est la traditionnelle question. Alors, Roland Drago avant M. Blanc.
Là, je voudrais que M. Blanc me donne son opinion. Moi, je ne le crois pas parce que la décentralisation devrait impliquer, comme c'est le cas en Allemagne, quand on regarde la loi fondamentale de la République fédérale allemande, on voit que le partage a été fait sur des bases constitutionnelles. Eh bien, dans ce cas-là, il s'agit simplement d'un déplacement d'une partie des ressources, mais l'extension des compétences des collectivités territoriales ne doit pas impliquer et ne devrait pas impliquer une augmentation de leurs ressources ou de leurs dépenses, comme on voudra.
Ne devrait pas,
mais la logique implique que dès le moment où on a transféré des compétences, on transfère aussi, non pas des subventions, non pas des dotations, mais on transfère une partie des impôts. Et si vous regardez le texte de la Constitution allemande, de la loi fondamentale de la République fédérale, il est dit que les Länder, et un certain nombre de grandes villes, mais il y a des villes qui sont des Länder, détiennent sur le plan de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur la TVA et de la TVA, une partie de l'impôt qui est perçu à ce titre par l'État, mais qui le reverse automatiquement aux collectivités territoriales.
Transfert de nombreuses compétences au profit donc des collectivités, tout en favorisant une meilleure identification des missions. Je crois que le transfert porte sur environ 3 milliards d'euros aux régions, 8 milliards aux départements, 130 000 fonctionnaires déplacés. Jacques Blanc, cette question des enjeux fiscaux est réellement importante.
Oui, est-ce qu'on peut tirer des leçons, des enseignements de l'expérience du passé ? Il y a une dynamique des dépenses et des recettes de la part des collectivités territoriales. Alors le professeur Drago a tout à fait raison de dire que par un effet mécanique, si on transfère des compétences, si on transfère des ressources pour financer ces compétences, mécaniquement, le poids économique des collectivités territoriales va augmenter. Seulement, les dépenses ont augmenté beaucoup plus vite depuis 20 ou 30 ans que celles de l'État, bien sûr. Tous les 10 ans, quasiment, ça s'est accéléré. Dans les années 90, on gagnait 1 point de PIB. On est pratiquement à 10 points de PIB maintenant. Et les ressources fiscales définies par les prélèvements obligatoires ont aussi substantiellement augmenté. Ceci dit, je mets en garde contre l'utilisation technique de ces notions méthodologiques. On peut toujours faire parler un taux de prélèvement obligatoire, on peut toujours veiller à l'égalité entre les compétences transférées et les ressources pour dire qu'elle est insuffisante. On peut toujours trouver des arguments pour soutenir n'importe quelle thèse. Ce qui est vrai, c'est qu'il me paraît être profondément contradictoire pour un esprit libéral qui préconise, comme l'ont fait Tocqueville et les autres, la décentralisation, que de constater une extension de la sphère publique au sein de l'économie due au fait qu'on gère avec beaucoup plus d'argent les compétences qui ont été transférées. Que n'a-t-on parlé des lycées ? On s'en est félicité. Les régions ont accompli au moment du transfert des lycées en 86 un très gros effort financier. Ça ne veut pas dire une utilisation optimale de l'argent public. Lorsque vous avez le lycée Évariste Galois à Noisy, pour ne prendre qu'un seul exemple, qui représente 2 à 3 fois le coût moyen annuel d'un lycée qui a un palace 3 étoiles, c'est le choix des élus dépensiers. Est-ce que l'État a vocation à accorder un droit de tirage illimité en fonction du choix des élus dépensés ? Alors la formule consiste à dire la moyenne arithmétique des dépenses engagées par l'État au cours des 3 années, c'est là le projet de loi sur les responsabilités locales, servira de base à la compensation par l'État, et puis après, les exécutifs locaux ont le droit de choisir en quantité et en qualité leurs normes de dépenses. Mais je ne pense pas que les collectivités territoriales puissent se voir reconnaître un droit de tirage illimité en fonction de leur choix de dépenses.
La décentralisation est présentée d'ailleurs souvent par ses partisans comme source d'économie, hein, par la rationalisation, la simplification, tout cela crée des économies. On peut vraiment employer le terme.
Écoutez, je prends un exemple. L'aide sociale à partir de 1984 aux départements. Les départements, notamment par les commissions d'admission à l'aide sociale, ont exclu un certain nombre de bénéficiaires. La théorie était, on ne gère bien que ce que l'on connaît. Donc on a confié au département l'aide sociale qui dépendait de l'État. Mais dans ces conditions, c'est une application de la théorie de la subsidiarité. Pourquoi n'a-t-on pas confié aux communes qui connaissaient, parce qu'on appelait alors les bureaux d'aide sociale, encore mieux la situation sur le terrain ? Alors on a pris l'échelon intermédiaire au nom du principe de subsidiarité et les commissions d'admission à l'aide sociale ont procédé à un certain nombre d'exclus. Il y a eu tellement d'exclus que le phénomène de la nouvelle pauvreté est apparu dans les années 85-90 qu'il a fallu créer le revenu minimum d'insertion. Et là, on a eu des économies, comme disent les technocrates de proximité, qui ont été réalisées par une politique un peu drastique en matière d'admission à l'aide sociale. Donc c'est vrai qu'on peut faire des économies en supprimant des bénéficiaires. Mais l'État pourrait faire la même chose et les communes aussi.
Roland Drago.
L'exemple de l'aide sociale est un excellent exemple parce que je crois que les Français doivent ignorer que le département est l'élément majeur de l'aide sociale et des actions sociales en général. Vous avez parlé de 1984, mais on peut même remonter plus loin, vous le savez mieux que moi, c'est-à-dire que depuis longtemps, on a considéré qu'il fallait concentrer l'aide sociale qui jusque-là était répartie au niveau national, au niveau départemental et au niveau communal. Je parle de la période, je ne sais pas, 1970 par exemple. Et puis, on a décidé de concentrer l'aide sociale au niveau départemental. L'aide sociale dans le département doit représenter 60 ou 70% du budget, le reste étant consacré à la vicinalité et puis toutes les autres attributions du département. Pour le moment, bien entendu, sont insignifiantes. Et par conséquent, là, il y a eu au moins un effort sur le plan de la gestion, un effort de concentration pour qu'il y ait une sorte d'équilibre qui s'établisse entre toutes les formes d'aide sociale qui allaient en s'étendant, mais avec les effets que vous avez indiqués. Voilà un exemple très caractéristique d'une extension de compétences au profit d'une collectivité territoriale, car il y a 100 ans, le département n'était peut-être pas le pôle de l'aide sociale, pour la mesure même où il y avait une aide sociale, à l'intérieur de l'État.
Nous marquons une nouvelle pause dans cette émission Éclairage, je rappelle, consacré aujourd'hui à l'importante question de la décentralisation. Nous en parlons avec Roland Drago, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et Jacques Blanc, spécialiste des questions fiscales. Nous y revenons dans un instant.
Vous écoutez Canal Académie.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie se penche sur la construction européenne. Les frontières de l'Europe d'un point de vue historique, l'Europe vue du monde arabo-musulman, l'Europe médiévale, l'Europe et les femmes. Radio-Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance, plusieurs fois par jour, Retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Radio Canal Académie. La décentralisation est au cœur de notre émission Éclairage aujourd'hui avec comme invité Monsieur Roland Drago, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, membre de la section législation de l'Académie, professeur émérite à l'Université Panthéon-Assas. À ses côtés, Monsieur Jacques Blanc, spécialiste des questions fiscales, ancien professeur titulaire des cours de finances locales à Sciences Po Paris et à l'École nationale des ponts et chaussées. Roland Drago, notre conversation avant la pause nous amenait directement à la question la question des niveaux, le fameux problème des niveaux, c'est-à-dire les relations entre départements et régions, aux régions les compétences d'orientation et de programmation et aux départements, on va dire, les politiques de solidarité et la gestion des infrastructures de proximité.
Oui, c'est un problème qui est très important, que d'autres pays ne connaissent pas, les pays européens. Et notamment si on prend le cas de l'Allemagne, les niveaux en Allemagne sont bien entendu la fédération, l'État fédéral, puis les Länder, puis les Kreis, dont vous avez parlé tout à l'heure, et enfin les communes, mais surtout les grandes communes. Autrement dit, il y a quatre le niveau national, le niveau des États membres, le niveau des arrondissements et le niveau des communes. Quatre niveaux. En France, je dois dire que en France, le système comporte justement à propos de ces niveaux une très grande diversité, et il est probable notamment que le département est une circonscription qui a vieilli. Le département a été une création un peu politique, mais quand même systématique, de l'époque révolutionnaire. Ils ont été créés en 1789 avec une superficie et une activité économique qui devait être généralement égale. Et puis, il est évident qu'avec avec l'évolution des circonstances, pour toutes sortes de motifs économiques ou techniques, les départements sont devenus, à certains égards, trop petits. Pourrait-on imaginer, avec les pouvoirs qui vont être donnés aux régions, que les départements disparaissent ? Le dire montre que c'est impossible pour des raisons qui sont des raisons politique, psychologique, comme on voudra. En tout cas, on devrait imaginer, en tout cas, c'est peut-être l'esprit de la réforme, que les régions gagnent des attributions par rapport au département. En tout cas, le problème du département est devenu, pour la France, un problème important, mais difficilement soluble pour les raisons psychologiques et politiques que je viens de dire. Et en ce qui concerne les communes, il y a, vous le savez, en France, on le dit, autant de communes que dans les autres États européens réunis, de l'ordre de 36 000 communes, avec des variantes considérables, puisque les communes très petites sont au nombre de 20 000, et que même on peut encore remonter plus loin pour avoir des communes qui sont à peine moyennes. On a donc essayé de résoudre ce problème par ce qu'on appelle aujourd'hui l'intercommunalité, mais il faut dire que dès 1894 ont été créés les syndicats de communes qui ont une activité actuellement, qui regroupent des communes sur des bases spécifiques, soit des syndicats à vocation multiple qui ont des activités diverses, soit des syndicats à vocation unique, comme par exemple pour les transports ou la distribution de l'eau. On a voulu faire fructifier cette notion d'intercommunalité avec toute une série de réformes, aussi bien pour les grandes villes que pour les villes moyennes. Il y a actuellement un système qui est assez complexe et qui n'aboutit pas pour autant à résoudre ce problème. Ça n'est pas pour dire que les communes rurales, même avec une petite population, doivent être condamnées. Ça n'est pas le cas, je pense, au contraire, car dans cette vision, le problème qui compte, et le mot n'a pas été prononcé jusqu'ici, c'est le problème du territoire, politique d'aménagement du territoire, et il faut considérer que les collectivités territoriales ne sont pas seulement des communautés d'hommes et des communautés ayant une activité dans le domaine, dans toutes sortes de domaines, mais aussi sont des éléments du territoire, et par conséquent, ce problème des niveaux, C'est-à-dire niveau européen, niveau national, niveau de région, etc., devrait être quand même reconsidéré.
Alors, les territoires, dans le cadre de cette décentralisation, il y a la question également des moyens financiers. Est-ce qu'on ne va pas aboutir finalement, peut-être à terme, est-ce que ce n'est pas un risque, à une inégalité de moyens entre régions, Jacques Blanc ?
Oui, certainement.
Des régions plus riches que d'autres, en fait.
Oui. Tout d'abord, si vous permettez, sur l'attachement des Français à leurs institutions, à leurs départements. On vient de vivre des référendums en Corse, en Guadeloupe et en Martinique, où la réponse a été négative. On est très conservateur dans ce domaine, donc il faut manier tout ceci avec beaucoup de prudence. Alors, pour ce qui est de l'autonomie fiscale, qui soulève la question de la nécessité ou non de la péréquation, il y a beaucoup à dire. L'autonomie fiscale des collectivités revient à dire redistribution en fonction inverse de la richesse des collectivités, sans aller forcément, ce que disait le géographe Brunet, vers jusqu'à... il ne faut pas interpréter la péréquation comme un pouvoir égalisateur forcené, mais gommer les disparités les plus criantes, en quelque sorte. Alors l'autonomie fiscale, ça a été l'un des principaux traits de la révision constitutionnelle de l'an dernier, consiste à dire que dans le total des ressources des catégories respectives de collectivités territoriales, les ressources fiscales propres et les ressources domaniales ou les autres ressources propres, telles que le législateur sera amené à les définir, doivent représenter une part déterminante, ce que le Conseil constitutionnel a traduit. Il va falloir fixer dans la loi organique à venir la part minimale des ressources propres dans le total des ressources que doivent présenter les collectivités territoriales. Évidemment, c'est une prime à l'inégalité, parce que les collectivités riches ont tous les moyens de leur autonomie fiscale. Les collectivités pauvres, elles n'ont pas de base. Elles ne peuvent pas asseoir des taux très élevés sur un certain nombre de bases, parce qu'elles finiraient par faire fuir même les entreprises et les ménages qui se trouvent sur leur territoire. Mais c'est quelque chose qui agit profondément au profit des seules collectivités riches et qui ne peut être conçu que pour les collectivités riches.
Mais comment un élu local peut vivre ce problème de la péréquation ?
Il le vit très bien dans les communes les plus riches, dans ce qu'on appelle le Triangle d'Or, par exemple, de la Défense parisienne. Il le vit le quartier de la Défense. Il le vit beaucoup moins bien dans une commune rurale qui est dénuée de base. Vous avez 1000 communes en France qui n'ont pas un sou de taxe professionnelle parce qu'il n'y a aucune entreprise qui se trouve située sur leur territoire. Alors il ne s'agit pas de procéder à une équirépartition. Il s'agit simplement de calibrer en fonction des fourchettes qui donne quoi et qui reçoit. La péréquation peut être verticale lorsqu'elle est faite par l'État au profit des collectivités et tout le monde travaille sur ce sujet. J'observe cependant, comme j'ai pu l'écrire, que dans la révision constitutionnelle, l'objectif de péréquation arrive de manière incidente, in fine, dans l'article. Des dispositifs tendant à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales, c'est pas une affirmation claire et nette comme le principe de l'autonomie fiscale. Dans la mesure où ces deux principes sont contradictoires, je crois que la jurisprudence du Conseil constitutionnel aura une importance essentielle à jouer et je souhaite grand plaisir au Conseil constitutionnel en fonction des lois qui sont votées pour savoir lequel des deux principes, l'autonomie fiscale ou celui de la péréquation, est respecté ou non par la loi.
Je ne voudrais pas me faire l'avocat du diable, messieurs Blanc et Drago, mais le monde idéal n'existera jamais en la matière. Il y aura toujours des inégalités. quelque part.
Bien sûr, mais on ne peut pas tolérer quand même qu'en France, vous avez 80% des bases de taxes professionnelles qui sont situées sur à peine 2000 communes. C'est la richesse d'une commune, la taxe professionnelle. Un effet de surprise a été créé par le président de la République quand il a décidé qu'il fallait réfléchir à un nouveau dispositif en matière de taxe professionnelle à l'expiration d'une période de 18 mois pendant laquelle il y aurait suspension de taxes sur les nouveaux investissements. Bon, il faut voir que c'est en France que le poids de l'impôt local sur les entreprises est le plus lourd. Depuis quelque temps, en dynamique là aussi depuis une dizaine d'années. Mais il faut voir aussi quel nouveau dispositif on va aménager pour permettre aux collectivités d'avoir l'équivalent de 50% du montant de leur recette de fiscalité directe. Alors, tout le monde connaît les éléments de la solution. On a créé une commission à Matignon. Dans d'autres enceintes, d'autres commissions se sont créées. On réfléchit à des sujets qu'on connaît parfaitement, mais c'est la volonté politique qui manque le plus de faire un choix.
Roland Drago, sur cette question de la péréquation.
Moi, je pense à cette commune minuscule des environs de Rennes, sur le territoire de laquelle se trouve une usine Renault et qui a une taxe professionnelle qui est peut-être considérable. Et parce que, simplement, on a décidé un jour de créer une usine Renault sur ce territoire. Et par conséquent, il y a des éléments de hasard qui interviennent. Si on prend le cas des États-Unis, on voit que c'est un problème qui ne préoccupe pas l'État fédéral et qui laisse à la décision de chaque gouvernement fédéré le problème de son avenir économique et de sa vie économique et de sa plus ou moins grande richesse. Si vous prenez le cas de l'Allemagne, si vous comparez la Bavière au Schleswig-Holstein, il est évident que la comparaison est impossible et c'est un mini-État, un État membre, et la Bavière qui a été un État avec toutes ses compétences et qui est beaucoup plus étendu et beaucoup plus riche. Vous avez donc nécessairement des divergences, l'égalité parfaite n'est pas possible. Il y a sans doute un plancher qu'il faut essayer de consacrer et c'est peut-être ce que veut dire la loi constitutionnelle de 2003 et la jurisprudence du Conseil constitutionnel au nom du principe d'égalité.
Venons-en aux entreprises, si vous le voulez bien. Quelles sont pour les entreprises les perspectives liées à l'avènement de la République des proximités, Jacques Blanc? Est-ce que les entreprises peuvent en tirer profit?
Il y a forcément contradiction entre la fiscalité de l'entreprise et les exigences financières de la décentralisation. C'est une contradiction du discours libéral. Je disais tout à l'heure que c'est en France que la fiscalité locale sur les entreprises est la plus lourde, et c'est tout à fait vrai. On l'a vu depuis 1990, ce n'était pas le cas en 1980-85. Il faut bien voir qu'il y a des effets cachés. La taxe professionnelle, payée par les entreprises, ça représente 50%, comme je le disais, des recettes de fiscalité directe, mais il faut bien voir que les entreprises payent aussi le tiers de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc ce sont les entreprises qui sont le plus sollicitées dans le financement global de la décentralisation. Que ce soit en fonction de leur capacité contributive ou pas, c'est pas un problème. En termes de financement de la décentralisation, les entreprises ont été les premiers financeurs. Si on se réfère à la capacité contributive des agents économiques, on se rend compte que les ménages ont été aussi lourdement taxés, tout simplement parce que la taxe d'habitation étant terriblement régressive, certains ménages de conditions extrêmement modestes n'ont que la taxe d'habitation à payer comme impôt, et ça représente une part dans leurs revenus totaux qui est bien supérieure à la part des ménages aisés pour ce qui est de la part de taxe d'habitation dans le total des revenus. Donc, quantitativement, les entreprises ont été le premier financeur de la décentralisation. Qualitativement, les ménages ont été aussi mis à contribution, et ceci explique illustre plutôt la dérive des prélèvements obligatoires locaux, bien malgré les réserves méthodologiques que j'évoquais tout à l'heure. Mais enfin, le montant des impôts locaux augmente chaque année.
Ouais. Roland Drago, sur
je pense que je n'ai pas rien à ajouter parce que je trouve que c'est très vrai. Et je me demande s'il y a, dès le moment où une collectivité est autonome, où elle s'administre librement avec des moyens qui sont prévus par la base constitutionnelle de leur système, il est difficile d'imaginer des éléments qui établiraient une égalité parfaite. D'abord, l'égalité parfaite serait peut-être même elle-même anti-économique, par définition, parce qu'il y a un problème de... Il n'y a pas que le problème de l'égalité entre les collectivités locales, il y a le problème d'aménagement du territoire dont on parlait tout à l'heure, et par conséquent qui, lui, se concerne l'ensemble du territoire. Il y a la nature même de l'industrie, il y a les traditions, il y a beaucoup d'éléments qui viennent intervenir et qui font que l'égalité parfaite n'est pas possible. L'égalité relative voulue par le constituant et par le juge constitutionnel peut être un but qu'on essaiera d'atteindre, mais on n'arrivera jamais à l'égalité absolue, parce que l'égalité absolue serait elle-même contre-productive, finalement.
À bien vous entendre, je suis tenté de me poser la question, ces réformes, finalement, n'interviennent-elles pas trop tard ? Un peu l'impression que cette question de la décentralisation, c'est le serpent de mer. Et je crois vous avoir lu Roland Drago, estimant que la meilleure période pour mettre en place une vraie décentralisation eût été 1970. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ?
Oui, moi je l'ai dit tout à l'heure aussi et je l'ai écrit. Je pense que cette période, à la suite du rapport Guichard qui a été fait à cette époque-là, qui préconisait un certain nombre de réformes qui ont été réalisées par la suite, notamment la disparition de la fonction du préfet en tant qu'exécutif départemental. Les réformes de 1970 ont été importantes, notamment la tutelle dont je parlais tout à l'heure a disparu. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait été possible, avec une opinion publique qui était moins remuée ou qui avait peut-être d'autres idées en tête, de réaliser les réformes qui ont été réalisées ensuite en 1982 avec la loi sur la décentralisation qui a institué un système relativement nouveau, mais pas aussi nouveau qu'on pouvait le supposer, et qui surtout n'a pas du tout abordé les problèmes financiers, et puis avec les réformes actuelles.
Décentralisation, une entreprise importante, hein, on l'a vu au cœur de cette émission, une ampleur particulière tant dans les transformations dont elle est porteuse que par la durée sur laquelle s'étendra la mise en œuvre. On ne peut pas tout mettre en place en même temps, c'est une œuvre de longue haleine, la décentralisation.
Il y a des modes, et cette mode est très contraire à notre tradition de droit public. Ce n'est pas parce qu'on progresse en sens à l'étranger qu'il faut automatiquement progresser en sens à l'étranger. Et comme je le disais
France,
tout à l'heure, les modalités l'emportent plus que le principe. Mmh. Le professeur Drago a parlé du rapport Guichard, il a tout à fait raison. C'était une forme concevable de décentralisation, mais dans le rapport Guichard, il est écrit noir sur blanc qu'il ne serait pas inconcevable, je cite, que les ressources propres des collectivités locales reviennent en deçà du seuil de 25% des recettes de fonctionnement. Donc là, aucune autonomie fiscale dans le rapport Guichard pour les collectivités territoriales. Comme quoi les modalités importent plus que le principe. Le principe qui lui relève de la mode. Je me souviens de certains écrits d'un professeur d'économie qui est Rémi Prud'homme, qui dit que la décentralisation doit être jugée sur le terrain compte tenu des caractéristiques culturelles propres de chaque État et qu'elle ne peut être ni une bonne chose en soi, ni une mauvaise chose en soi.
Donc encore beaucoup de travail. Professeur Drago.
Oui, encore beaucoup de travail, mais aussi des diversités. Il faudrait peut-être introduire peut-être plus de variétés possibles à l'intérieur du système d'administration locale. Il est certain que nous avons des données qui sont évidentes, qui relèvent de la démocratie. Il faut se rappeler, par exemple, que Tocqueville, que vous citiez, a dit « Les communes sont l'école primaire de la démocratie ». Il l'a dit parce que, justement, le régime de Louis-Philippe n'y correspondait pas. Mais il est certain qu'il y a là quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que dans le monde moderne où la France que connaissait Tocqueville ou les États-Unis que connaissait Tocqueville n'ont plus aucun rapport avec les États actuels, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'autres motifs ? Vous avez parlé du principe de subsidiarité et c'est un principe qui est particulièrement important. Il consiste à dire ce qu'on peut faire à un niveau inférieur n'a pas besoin d'être fait à un niveau supérieur. C'est une règle de logique, c'est une règle non seulement de logique, mais qui sur le plan psychologique aussi devrait avoir beaucoup de sens. Mais on se trouve en présence de difficultés qui sont effectivement importantes et qui peuvent sur le long terme ou sur le moyen terme quand même porter leurs fruits.
Merci infiniment pour votre témoignage, messieurs. Je rappelle donc que nous parlions de la décentralisation aujourd'hui en compagnie de Jacques Blanc, ancien professeur titulaire des cours de finances locales à Sciences Po Paris et à l'École nationale des Ponts et Chaussées. Et puis monsieur Roland Drago, membre de la section législation de l'Académie des sciences morales et politiques, professeur émérite à l'Université Paris de Panthéon-Assas. Et monsieur Drago qui travaille actuellement sur un rapport à paraître dans quelques mois, la conférence de la loi. Nous aurons l'occasion d'y revenir à travers une émission de Canal Académie. Madame, messieurs, merci infiniment de votre fidélité à Canal Académie. Je rappelle la radio de l'Académie des sciences morales et politiques dans le monde entier, www.asmp.fr. Je vous dis à très bientôt. Merci, messieurs.